ladies and gentlemen, and others.
J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies.
Parce qu'il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
Les mots sont toujours les mêmes, les êtres changent quelquefois et les situations sont les mêmes.
Enfin, on dit je vous aime à l'amour, on ne dit pas je vous aime à quelqu'un.
Je pense que tout est amour, enfin ma religion, c'est l'amour.
Hier, du coup, je me baladais justement le long des quais à Paris et je tombe sur un bouquiniste et il y avait une affiche en fait en mode trigger warning sur son étalage et il y avait marqué « Ne pas lire est dangereux pour la santé mentale, ça vous oblige à croire tout ce que l'on vous dit ».
Mais ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c'est les livres. L'effort que font les hommes pour s'exprimer, pour expliquer leur vie, le peu de temps qu'ils ont à vivre et en tirer une leçon.
On vous a tous sûrement déjà demandé si vous avez lu tel ou tel classique. Et il y a ces fameux classiques que personne n'aime, mais que vous avez aimés. Et donc on va vous présenter un de nos meilleurs pires classiques.
On peut commencer peut-être avec La Princesse de Clèves. Donc La Princesse de Clèves donc de Madame de Lafayette. Donc on a dû lire pour le bac de français notamment. Et c'est vrai que moi c'est un livre que j'ai particulièrement aimé. Bah, tout simplement pour toujours donc, le fameux conflit, vertu, passion. Je trouve ça hyper intéressant tout ce qui est de l'analyse des sentiments, des émotions, des états d'âme, donc de La Princesse de Clèves. Et on peut vraiment, je trouve, s'y retrouver aujourd'hui et l'appliquer à plein de conflits moraux intérieurs qu'on ressent dans notre société. Comme par exemple, qu'est-ce que vont dire les gens de moi si je fais ça? On peut le comparer par exemple aux réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai aussi notamment aimé l'époque. Je trouve que c'est une époque qui est hyper riche, enfin qui est hyper fausse en même temps, mais enfin que moi j'adore particulièrement tout ce qui est les habits, tout ça. Enfin, c'est un autre petit détail du livre qui m'a intéressée.
Ben moi justement, c'est un de mes pires classiques que j'ai aussi dû lire pour le bac français et que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le livre très redondant. J'aurais bien aimé y prendre plaisir. C'est une histoire d'amour, en plus écrite par une femme, ce qui était rare à l'époque. C'est un des premiers romans qui évoque vraiment les sentiments, ce qui est super intéressant. Mais pour le coup, moi j'ai rien du tout éprouvé en lisant le livre. J'étais à la limite agacée, mais c'est tout. Voilà, donc une déception et un mauvais moment à passer également. Mon meilleur classique, qui est très détesté, c'est La Métamorphose de Kafka, la nouvelle, pas tout le recueil, que j'ai lu l'été dernier. C'est une nouvelle dont on m'avait beaucoup parlé. J'avais lu la fameuse première phrase qui est « Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se trouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. » J'avais trouvé cette phrase très fade, très courte, très bizarre, et ça m'avait pas du tout donné envie de lire la nouvelle. Et du coup, j'avais attendu très longtemps avant de m'attaquer à Kafka. J'avais peur de pas aimer ou de peut-être pas comprendre. Et quand je l'ai lu l'été dernier, je pense que c'était vraiment le bon moment. Ça m'a énormément parlé. Je trouve que Kafka explore vraiment des sentiments, des choses, des pensées très profondes. Au-delà du fait que ce soit une métaphore de sa propre dépression, je trouve que la nouvelle nous parle vraiment de sentiments assez forts, comme l'angoisse existentielle, mais aussi les angoisses liées à la mort ou tout simplement aux choses normales de la vie, ne serait-ce que se lever le matin. Voilà, je trouve que c'est une nouvelle très forte, et la force aussi de Kafka, c'est que, selon moi, on n'a pas besoin de l'interpréter pour l'apprécier. Je pense que, ne serait-ce qu'en lisant, on ressent tout de suite l'horreur de Gregor, et on est à la fois à la place du personnage et en dehors de son univers, parce que c'est quelque chose d'extrême qui est décrit. Enfin, pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Je trouve que c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre que j'ai lu, et je n'ai pas depuis relu quoi que ce soit qui y ressemblait. Donc vraiment un coup de cœur.
Bah pour le coup, justement, ça ressemble vraiment à rien d'autre. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres livres comme ça qui, on va dire, percé. Mais alors moi, du coup, donc c'est un livre que j'ai pas du tout aimé. Franchement, pas du tout. Déjà, c'est hyper court, mais j'ai trouvé ça super long. Enfin, en fait, je pense que j'ai pas saisi après le sens de l'histoire, toute la recherche qu'il y a derrière. Après, je l'ai lu il y a assez longtemps quand même, je pense. Enfin, peut-être il y a 3-4 ans. Donc peut-être que voilà, faut un peu plus de maturité, on va dire, pour comprendre le sens derrière. Mais en fait, je pense que j'ai pas du tout compris l'intérêt de Gregor, donc qui se transforme en espèce de cafard. Ouais, j'ai trouvé ça drôle au début, et en même temps hyper loufoque. En fait, voilà, c'est ça. J'ai trouvé ce roman genre tellement loufoque que ça m'a paru au-dessus de tout ce à quoi je pouvais m'attendre, tellement je m'attendais pas du tout à ça. Et pour le coup, j'ai trouvé ça aussi, ouais, redondant, parce qu'en fait, je trouvais que ça avait juste pas de sens, et du coup, je comprenais pas le but de l'histoire. Donc, je pense que c'est vraiment un de mes pires classiques.
Dans la lecture, il y a des moments où on se cherche et on se trouve. Et ça, c'est épatant. Tout d'un coup, on peut s'identifier à certaines paroles qu'on trouve imprimées. Et on a un soulagement énorme. On dit « Ah, c'est ce que je ressens, mais que je n'arrivais pas à bien dire, à bien définir. »
Un classique méconnu qu'on a, pour le coup, aimé toutes les deux, c'est Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras.
Donc ce livre-là, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Enfin, quand je l'ai refermé, je me suis vraiment dit waouh, c'était vraiment bien. Et en même temps, bah j'ai dû relire 3 fois la fin pour essayer de la comprendre. Et je pense que je l'ai toujours pas comprise. Et en fait, à mon avis, selon les époques de notre vie, on va la comprendre différemment. Et parce que bah tout simplement, je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc en même temps, c'est aussi ça qui fait la beauté du livre de Marguerite Duras. Et en fait, cette fin m'a complètement déstabilisée, mais en même temps, j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, on plonge tellement au cœur de tout ce mélange de sentiments, de confusion de l'Olvestein. En fait, on se retrouve dans un truc vraiment très très complexe, mais en même temps, c'est là qu'on voit toute la singularité qui fait l'être humain et... comment on interprète chacun des situations qui, au final, peuvent nous paraître banales. Enfin, banales dans le sens, là, c'est, voilà, c'est une séparation amoureuse, c'est quelque chose qu'on vit tous dans notre vie. Et en fait, ça devient toute une sorte de double histoire dans sa vie à l'Olvestein. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et hyper complexe.
Oui, je te rejoins un petit peu là-dessus. Je pense que l'Olvestein, c'est... un peu l'expérience de ce que Flaubert disait quand il disait qu'il voulait écrire un livre sur rien. Parce qu'en fait, l'histoire de l'Olvestein, on ne sait pas si elle a existé. Elle est fantasmée, elle est un petit peu inventée, on ne sait pas ce qui est vrai. On peut supposer que rien de tout ça n'est vrai. Même elle, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure elle existe, qui elle est, si elle est une ou plusieurs personnes, si elle a un rêve, un fantasme. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup la manière de Marguerite Duras quand elle décrit les femmes. Je trouve que ses portraits de femmes sont très beaux, souvent complexes, sensibles et assez singuliers. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve très peu et qui, pour moi, est particulièrement parlant. C'est vrai que cette L'Olvestein, elle se distingue un petit peu des autres héroïnes de Marguerite Duras et à la fois, elle les recoupe un petit peu toutes. On se souvient d'elle et à la fois... on s'en souvient un petit peu comme dans un rêve par morceaux, mais c'est vrai que sans avoir pu tirer une interprétation du livre, je dirais que c'est un livre que j'ai trouvé très beau, que j'ai pris plaisir à lire et que je recommanderais vraiment.
C'est vrai qu'elle montre vraiment toute la complexité de l'être, la complexité du moi intérieur. Et donc c'est vraiment en fait plusieurs personnalités, et même que nous, tout au long de notre vie, on est toujours plusieurs personnes, mais au final, on est toujours la même. Genre, c'est une idée qui est compliquée à expliquer, mais c'est vraiment, on est toujours dans la même enveloppe corporelle, mais on évolue différemment, et c'est en fait dans notre vie, on a plusieurs vies qui vont s'assembler, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce roman, et qui est en même temps compliqué à comprendre, mais en même temps super beau aussi.
Et je pense aussi par rapport à ça que la force de Marguerite Duras, qui fonctionne beaucoup par répétition, par des phrases qui reviennent de manière un petit peu obsédante et oppressante également, c'est de nous montrer qu'en fait, bien qu'on évolue, on est toujours le même et on est aussi ramené à ce qu'on était avant par le regard des autres qui ont une image figée de nous. Par exemple, c'est un truc qui arrive souvent quand on retrouve nos amis d'enfance et qu'on les a pas vus depuis longtemps, on se rend compte qu'on a évolué, on n'est plus du tout la même personne qu'ils ont connue. Et en fait, on voit dans leur regard qu'ils nous associent encore à une personne qu'on était à l'époque, et c'est très perturbant et en même temps assez riche comme expérience.
Au début, quand j'ai compris que j'allais devenir écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi.
Pour terminer, on vous a fait un top 3 des livres qu'on conseille, soit qui font partie de nos livres préférés ou qui nous ont particulièrement marqués, en tout cas que vous devez lire à tout prix. Et je te laisse commencer par ton troisième.
Le troisième livre qui m'a vraiment marquée, c'est « Quand nos souvenirs viendront danser » de Virginie Grimaldi. Donc en fait, ça part d'une annonce où le maire il va détruire l'impasse des Colibris. Donc c'est en fait toutes les maisons, les histoires, les souvenirs, les vies de 6 personnages complètement délirants qui vont donc être massacrés. Et donc en fait, ces 6 petits vieux, on va dire, ils vont vraiment s'associer et en fait on va plonger dans leur histoire. Et donc, ce que j'adore, c'est qu'on part du présent pour replonger dans leur passé. Et donc, en fait, ça montre vraiment la force de l'amitié, de l'amour. Donc ça fait un peu cliché comme ça. Mais ça montre aussi que on peut faire des erreurs dans la vie et que, surtout, c'est important de recoller les morceaux et qu'il est toujours temps de le faire.
Moi, mon troisième, c'est « Cher connard » de Virginie Despentes. Je vous invite vraiment à lire tous les livres de Despentes. C'est des œuvres particulièrement éprouvantes, qui vont vous faire pleurer, mais qui ont, selon moi, une dimension cathartique et qui renvoient vraiment à des choses très parlantes. Enfin, chaque livre, je pense, résonne d'une manière intime, pour des raisons différentes selon les livres. Celui-là, c'est un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière, qui marque un petit peu un tournant dans l'œuvre de Despentes, parce que c'est un livre que je qualifierais d'apaisé par rapport à toute la violence positive qui est souvent présente dans ses autres romans. C'est un roman épistolaire qui raconte la relation qu'on pourrait qualifier d'amitié qui va se lier entre Rebecca, une actrice qui a dépassé la cinquantaine, qui subit un petit peu le regard de la société sur les femmes et sur le vieillissement, et Oscar, qui est un écrivain un petit peu raté, qui a la quarantaine, et qui se fait rattraper par son passé, notamment parce qu'il est accusé, à raison, d'agression sexuelle. C'est un livre nuancé, touchant, qui exprime nos failles, nos faiblesses. C'est un livre qui parle d'amitié, de confiance, des compromis qu'on fait parfois, de désintox également, de peur, d'angoisse, et surtout qui pose la question du pardon, qui est assez optimiste et qui vraiment nous fait du bien, donc je vous le recommande.
Donc ensuite, le deuxième livre qui m'a le plus touchée, c'est « Nos séparations » de David Fankinos. Donc c'est un livre que m'avait conseillé une amie cet été. Enfin, suite à ça, j'en ai lu deux autres qui m'ont pas plu spécialement. Et pour le coup, celui-là, il m'a vraiment touchée. En fait, c'est tout simplement l'histoire de deux personnes qui s'aiment, donc assez basique. Donc Alice et Fritz. Et en fait, on pourrait résumer en une phrase leur relation, c'est compliqué. Et donc en fait, c'est l'histoire donc de ces deux personnes qui vont toujours se quitter pour mieux se retrouver. C'est vraiment un livre que j'appelle vivant, enfin un livre humain un peu, parce que j'ai énormément ri. Vraiment, je me suis vraiment surprise à rire tout le temps quand je lisais. Et en même temps, j'ai aussi pleuré quelques fois. Et en fait, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que David Fankinos, il a une écriture qui est vraiment particulière, je trouve. Et en même temps, c'est ce qui fait sa singularité. Mais en fait, c'est une écriture qui est assez simple, alors comme si il couchait directement ses pensées sur le papier. Donc vraiment, tout ce qui lui passe par la tête, il l'écrit. Et donc du coup, ça fait que c'est une écriture assez directe, assez brusque, mais qui est vraiment du coup assez simple à lire et du coup qui est drôle. Et donc ce que ça m'a appris ce livre, c'est que y a des personnes qui sont faites pour croiser notre chemin, mais pas pour nous tenir la main tout le long.
Moi, mon deuxième, c'est Le premier homme de Camus, qui a été publié à titre posthume en 1994, où Camus raconte son enfance, son adolescence, comment il a essayé de se construire dans une famille où il a été élevé, comme il l'écrit, à mi-chemin entre la misère et le soleil. C'est un livre qui est controversé pour plein de raisons. Certains accusent Camus de colonialisme, du moins d'apporter, je cite, une vision mythologique de la conquête coloniale. Camus est aussi beaucoup repris par l'extrême droite parce que il a un discours un petit peu universaliste républicain. Mais au-delà de ça, si je vous conseille ce livre, c'est pas pour sa portée politique, mais vraiment pour sa dimension littéraire. Je trouve que c'est un livre extrêmement touchant, très très bien écrit, bien que pas achevé, bouleversant, sensible, honnête, qui montre un très beau portrait de sa famille, des gens qu'il a côtoyés, et aussi un portrait très humble de lui-même. Je pense que c'est son livre le plus bouleversant, le plus personnel, et aussi le plus beau. Vraiment, lisez-le pour trouver de la beauté.
Le livre qui m'a vraiment bouleversée, c'est « Tout le bleu du ciel » de Mélissa D'Acosta. C'est vraiment un livre qu'il faut absolument lire dans sa vie. Tout part d'une annonce sur internet. Donc c'est l'histoire d'un garçon, Émile, qui est condamné par la vie, donc qui est condamné à mourir suite à un Alzheimer précoce. Et donc, il va décider de s'enfuir, on va dire, de l'hôpital pour profiter au mieux de ces derniers mois qui lui restent. Et donc, il va partir en camping-car avec Joanne, donc qui a répondu à son annonce, qui, elle, donc, n'a plus rien à perdre non plus, mais on sait rien de sa vie. Et donc, en fait, déjà, l'idée de l'histoire, ça m'a tout de suite intriguée parce que je me suis dit, bah, c'est quand même marrant comme idée de faire tout ça à partir d'une annonce sur Internet. Encore une fois, j'aime beaucoup le déroulé quand on part de la fin et on avance dans leur passé. Et donc en fait, ce livre, je trouve que c'est vraiment un concentré d'émotions. On va beaucoup pleurer, mais on va aussi rire. Et c'est surtout un livre qui est vraiment beau. C'est un peu donc une ode à la vie, à l'espoir. Ça aussi redonne confiance dans le monde, dans le sens que bah on peut trouver plein de gens qu'on rencontre par hasard qui ont un cœur, on va dire. Et donc pour résumer vraiment ce livre, je trouve que c'est la beauté brutale des mots et des mox. Et donc c'est vraiment un de ces livres où on n'a pas envie de quitter les personnages et c'est difficile à la fin d'accepter que bah ils existent pas réellement, et c'est vraiment vraiment un livre que je conseille absolument.
Je te rejoins totalement sur ce conseil. C'est un livre qui m'a été offert par ma grand-mère et qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Merci mamie. Et moi du coup le premier livre que je vous conseille, si vous deviez n'en choisir qu'un, lisez celui-là, c'est La cloche de la détresse de Sylvia Plath, publié en 1963, un mois avant sa mort par suicide. C'est son seul roman où elle raconte sa descente aux enfers à partir de ses 19 ans. C'est un des rares livres qui aborde de manière juste le thème de la santé mentale. Ça parle de dépression, de ses multiples tentatives de suicide. Elle évoque ça d'une manière très lucide, avec un style vif, parfois drôle, en tout cas percutant et très personnel. Je mettrai un petit trigger warning dessus, ne le lisez pas si ça va pas à niveau santé mentale, mais sinon c'est un livre qui se termine sur une note d'espoir, donc là encore quelque chose d'assez optimiste, ce qui est déstabilisant quand on sait qu'elle s'est suicidée quelques mois après, mais c'est un livre bouleversant, magnifique et qui vraiment a marqué ma vie et m'a aidé à me construire, donc je vous le conseille.
Je crois que les livres, il faut bien en lire un peu, mais pas beaucoup, parce que sinon, on n'a pas une expérience vécue. Alors la chose très importante, c'est d'avoir une expérience personnelle. Mais si on reste dans les livres, on n'a rien appris du tout. Il faut la mettre en pratique tous les jours dans la vie. Et c'est la chose la plus difficile.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino mi ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I li avete a Portofino, un vieux clocher qui s'ennuyait de ne sonner que les mattines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. à chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut. Il chante notre mariage vers les nuages à Portofino.
C'était Pauline et Charline et on ferme cette parenthèse sur une chanson de Dalida.
Radio. 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 Radio Germaine.